Radio Capi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Capi, titulaire regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio Edmond Izouba, il est journaliste et responsable du média en ligne opinion-info.cd. Bonjour Edmond Izouba.
Merci Guy Manté de l'invitation et bonne condition d'écoute à tous les fidèles auditeurs de Radio Capi.
Madame Jacqueline Ndaya, elle est membre de la société civile et point focal du cadre de concertation permanent de la femme congolaise Kafuko-Kasaï Orientale. Elle est coordonnatrice du centre féminin de formation et d'information pour le développement CFID en sigle. Bonjour Madame Jacqueline Ndaya.
Bonjour Monsieur Guy Mathieu, vous m'entendez bien?
Oui, je vous entends très bien. Et En ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Bonjour professeur Pierre Virgence.
Bonjour et bonjour aux intervenants et à tous les auditeurs.
Merci et à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité.
Une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Capi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Capi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Capi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation d'Edmond Izouba. Il est journaliste et responsable du média en ligne opinion-info.cd. Madame Gertrude Ndaya, elle est membre de la société civile et point focal du cadre des concertations permanentes de la femme congolaise de Kafuko-Kasaï Orientale. Elle est coordonnatrice du centre féminin de formation et d'information pour le développement CFID en sigle. Et aussi en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir processus de règlement pacifique de la crise en RDC, qu'espéraient le Qatar et l'Angola dans leur tentative d'assurer des négociations entre la RDC et le Rwanda, crise dans l'est de la RDC, position ambiguë des rebelles du M23 AFC et de certains opposants congolais, et enfin, présence des militaires ougandais sur le territoire de la RDC. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la problématique de la mise en application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. En effet, lors de la réunion interinstitutionnelle tenue le 26 mars à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a exhorté le gouvernement à intensifier ses efforts diplomatiques pour garantir l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution, adoptée à l'unanimité, impose des sanctions aux forces hostiles et vise à renforcer la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. De son côté, le représentant permanent de la RDC auprès des Nations Unies insiste sur l'urgence d'appliquer dans toute les rigueurs les dispositions de la résolution 2773 du Conseil de sécurité pour mettre fin aux violences et protéger les populations civiles dans les régions affectées. Cette résolution exige notamment le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et la cessation immédiate des hostilités par l'M23. Zeno Mukongo, Gaï, l'a dit au cours du briefing du Conseil de sécurité de l'ONU jeudi 27 mars à New York. Edmond Izouba, certes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ont toujours eu un caractère contraignant, mais on se rend compte que leur mise en application n'est pas toujours évidente, et on les voit même avec cette résolution 2773 sur la RDC. Qu'est-ce que cela vous inspire?
ça m'inspire, je dirais pas que les Nations Unies ne sont pas conscientes de la crise que traverse la RDC actuellement ou de la manière dont ce conflit a autant perduré, mais je me rends plutôt compte que les Nations Unies se limitent seulement à prendre des résolutions et ne regardent pas le vrai problème en face. Parce que si les Nations Unies seront là seulement pour prendre des résolutions et faire des rapports et ne pas résoudre le vrai problème, eh bien, ça sera juste des déclarations de bonne foi. Parce que, en réalité, vous allez vous en rendre compte que toutes ces résolutions-là ne sont pas appliquées à la lettre. Plutôt, on cherche autre chose à faire en dehors de ces résolutions. Donc, vous avez compris que depuis la nuit des temps, depuis que cette situation perdure, il y a eu beaucoup de résolutions, mais aucune des résolutions n'a été appliquée à la lettre. Rappelez-vous quand le M23 avait pris la ville de Goma, il y avait une résolution qui a été prise à l'époque. On suppliait même au M23 de se retirer de la ville, mais il fallait compter sur les forces pour le faire partir. Moi, je m'attelle plutôt à la position des États-Unis d'Amérique qui a demandé à ce qu'on adapte la mission des Nations Unies, des forces de maintien de la paix, à l'actualité. Effectivement, ça doit varier selon les circonstances. Mais pourquoi est-ce que les Nations Unies ne comprennent pas ce qui se passe sur le terrain? On se limite à regarder à distance et faire des déclarations de bonne foi. Donc, j'estime que avec cette allure, la RDC ne connaîtra jamais la paix parce que on se limitera à faire des rapports et à faire des déclarations de bonne foi, à rendre des résolutions, mais rien ne sera appliqué.
Merci, Madame Gertrude Ndaya. Le 27 73 exige la cessation, nous l'avons dit, la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat de l'armée rwandaise du territoire congolais. Madame, lorsque à la clé les grandes puissances n'ont pas prévu, n'est-ce pas, des actions contraignantes, des sanctions, est-il facile de voir ces types de résolutions être mises en application?
Il faut dire que cette résolution avait amené beaucoup d'espoir au peuple congolais du fait qu'elle condamne l'agression rwandaise et demande au M23-FC de se retirer. Ça a donné beaucoup d'espoir. Mais il y a une déception quelque part parce que depuis que cette résolution a été prise, on ne voit pas de changement notable sur le terrain. Les tueries des civils continuent. Les M23-FC et les troupes rwandaises sont toujours sur le sol congolais. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement pour obliger les parties prenantes au conflit de respecter totalement la résolution, eh bien, toutes ces mesures risquent d'être un chapelet de bons voeux et qui n'apportent rien à la population, qui n'apporte pas la paix durable et les atrocités continuent. Donc, il y a nécessité qu'il puisse y avoir des mesures de contrainte, des mesures de suivi pour se rassurer qu'effectivement, la résolution est mise en action. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ces mesures-là, donc, la résolution serait comme un coup d'épée dans l'eau. Et nos populations de l'Est continueront toujours à subir ces atrocités, ces exactions. Et vraiment, ça ne va pas.
Merci, professeur Pierre Vergence. La résolution 2773 peine à produire les effets, nous l'avons dit ici, peine à produire les effets sur le terrain. Ça pourrait être quoi les dessous des cartes selon vous?
Ben, déjà, comme les deux intervenants précédents viennent de le dire, c'est une simple déclaration d'intention. Elle condamne en principe le M23, elle exige que le Rwanda se retire, mais elle ne prend pas de mesures concrètes pour imposer ses décisions. Donc c'est une simple déclaration d'intention, elle ne se donne pas les moyens d'agir. Donc le Conseil de sécurité a donné son opinion sur le conflit, mais il n'a absolument pas préparé une intervention sur le terrain. Donc c'est effectivement quelque chose qui est tout de suite décevant pour le peuple congolais, parce qu'effectivement, il n'y a rien qui est mis en œuvre. Donc, je dirais, c'est un peu, semble-t-il, le maximum qu'on puisse demander du Conseil de sécurité, puisqu'on sait bien que la France, qui avait introduit le dossier, espérait que ça aille plus loin, mais ça n'a pas été plus loin du tout.
Merci, on prend une petite pause en écoutant « Plus rien ne m'étonne » de Tiken Diafakoli, et on se retrouve juste après.
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes jugements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses faire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandin se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandin. Une partie de l'empire mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde.
C'était Plus rien ne m'étonne avec cet artiste engagé Tiken Diafakoli, un reggaeman ivoirien qui n'est plus à présenter. On revient à l'actualité cette semaine. Le président Félix Antoine Tshisekedi a rencontré mercredi 26 mars à Luanda son homologue angolais João Lourenço. Selon Tete Antonio, chef de la diplomatie angolaise, les deux chefs d'État ont convenu de maintenir une concertation et des consultations régulières malgré le retrait de l'Angola de son rôle de médiateur dans les conflits à l'est de la RDC. Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont réaffirmé les bonnes relations entre leurs pays. Concernant les conflits dans l'est de la RDC, ils ont souligné l'importance de poursuivre les échanges dans le cadre des responsabilités actuelles de l'Angola qui assure la présidence tournante de l'Union africaine. Mardi 18 mars, le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés à Doha, au Qatar, dans le cadre d'une réunion trilatérale organisée par l'émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, comme l'a annoncé le ministère des Affaires étrangères du Qatar. Ce dernier a, dans une déclaration, précisé que les discussions entre les deux chefs d'État africains et l'émir ont porté sur la pacification de l'Est de la RDC. Professeur Pierre Vigence, vous êtes politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Boutembo en RDC. Vous avez souhaité nous parler de ce sujet en posant la question de savoir qu'espéraient les Qatar et l'Angola dans leur tentative d'assurer les négociations entre la RDC et le Rwanda. On vous écoute.
Oui, tout à fait, parce que je me situe comme citoyen du monde et je trouve que c'est plutôt positif de voir que l'Afrique essaye de résoudre ses problèmes sans tout le temps regarder l'Europe. Les anciens colonisateurs, effectivement, comme le disait un peu le chanteur que nous venons d'entendre, les anciens colonisateurs s'étaient partagé le monde et les conséquences de leur colonisation se font toujours sentir. C'est peut-être très positif, effectivement, que les Africains, d'abord, essayent de régler entre eux, donc par l'intermédiaire de l'Union africaine, mais aussi avec des intermédiaires nouveaux, comme par exemple ces pays pétroliers qui sont très riches grâce à la manne pétrolière et qui essayent d'intervenir dans le monde avec à la fois des investissements considérables et ce qu'on appelle du soft power, c'est-à-dire une image de marque. Et on voit bien que le Qatar a fait un effort considérable pour séduire le Rwanda, puisque maintenant le Qatar a fait investi énormément dans le nouvel aéroport de Kigali et compte en faire un hub qui permettrait de déclasser en quelque sorte Ethiopian Airlines. Et le Qatar Airways, comme ça, serait en relais avec Rwandan Airlines. Et donc on aurait à ce moment-là une liaison très forte entre les deux pays, avec donc un déploiement du Rwanda. Donc c'est la raison pour laquelle probablement Paul Kagame n'a pas pu refuser l'offre de l'émir du Qatar et a dû accepter d'aller rencontrer directement le président de la République démocratique du Congo. Donc on sait que l'Angola avait déjà essayé de forcer la main, je dirais, aux deux partenaires, mais ça n'avait pas été efficace, hein, vous l'avez souligné dans votre introduction. Ben, l'Angola, évidemment, c'est la sortie ouest de toute la zone minière du Katanga, et donc il avait des raisons objectives de vouloir pacifier le pays et de diminuer les tensions militaires à l'intérieur de cet immense pays que la RDC. Donc ici, c'est plutôt, je dirais, un élément nouveau qui intervient avec l'intervention du Qatar, mais quand même, plusieurs jours se sont passés, et un petit peu comme la résolution des Nations Unies, on ne voit rien venir en termes de mesures concrètes de pacification dans l'est de la RDC.
Oui, professeur Pierre Vigence, il est de notoriété publique que la guerre dans l'est de la RDC est d'abord économique. Et comme la guerre est d'abord économique, vous ne pensez pas que le cadre approprié serait justement Qatar pour espérer trouver une solution adéquate à cette crise entre le Rwanda et la RDC?
Oui, je pense effectivement que c'est pour ça que les deux présidents de la RDC et du Rwanda ont accepté de se rencontrer, en espérant qu'il pourrait y avoir une avancée. Mais peut-être que les deux espéraient des choses contradictoires et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à mettre au point un règlement de sortie du conflit. Parce qu'on sait que le Rwanda continue à nier que les troupes rwandaises sont sur le terrain en RDC, alors que tout le monde le sait qu'ils sont là, c'est assez... Voilà, donc c'est vrai que le Qatar, avec sa puissance financière, pouvait jouer un rôle considérable, parce que on sait que les pays pétroliers essayent maintenant de jouer un rôle d'intermédiaire entre les grandes puissances du monde maintenant, parce que leur puissance financière leur donne les moyens d'agir, et que les anciens pays colonisateurs, ben, l'Europe, elle ne joue plus du tout sur la carte internationale, elle est absente maintenant, et les États-Unis ne jouent plus du tout suivant les mêmes règles qu'auparavant, et on ne connaît pas encore bien les règles sur lesquelles les États-Unis jouent.
Merci Madame Gertrude Ndaya, vous êtes membre de la société civile et point focal du cadre des concertations permanentes de la femme congolaise Kafro-Kassai-Orientale. Vous êtes coordonnatrice du centre féminin de formation et d'information pour le développement CFID en sigle. On se tromperait si on affirmait que les désengagements de l'Angola de ces processus reflètent la déception de Lourenço qui, après s'être rendu compte qu'il y avait plusieurs initiatives pour les mêmes objectifs, mais des initiatives qui s'est chevauchées. Est-ce qu'on se tromperait si on affirmait cela?
Il faut dire, reconnaître qu'effectivement, après... la façon dont s'est déroulé les différents rendez-vous au niveau de l'Angola. Le dernier rendez-vous du 15 décembre avait été saboté par le président du Rwanda. Évidemment, on peut dire que l'Angola, le président Lourenço est déçu de voir que le comportement du président du Rwanda ne permet pas de faire avancer le processus vers des solutions à ce conflit à l'est du pays. Comme le disait le professeur, l'Angola a tout intérêt à ce que ce conflit s'arrête. Parce que comme on dit que c'est une guerre économique, et sur le plan économique, l'Angola a des intérêts, l'Angola a intérêt à ce que la guerre s'arrête. Parce que les trois pays, on peut dire l'Angola, la RDC, le Rwanda, ont nécessairement des échanges économiques. Et aussi longtemps que la guerre persiste, ça ne pourra pas marcher. Et on doit reconnaître aussi que ce conflit à l'est de la RDC, c'est une situation très complexe où il y a beaucoup des intérêts qui s'entremêlent et ce n'est pas facile de pouvoir arriver à trouver des solutions comme ça facilement. Donc, les intérêts des uns et des autres sont en train de compliquer la situation, de compliquer la recherche de la résolution de mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo.
Merci Edmond Izouba, journaliste congolais responsable du média en ligne opinion-info.cd. Est-il opportun d'harmoniser toutes ces initiatives en vue d'aboutir à une solution qui puisse satisfaire toutes les parties?
Oui, je crois que vers la fin, si les antagonistes ciblés sont d'accord, on atteindra une initiative qui va inclure toutes les autres initiatives, parce que vous avez déjà ces deux dialogues de Addis Abeba, le processus engagé à Addis Abeba et à Luanda qui ont été fusionnés selon la volonté des membres de l'EAC et de la SADC, mais aussi vous avez à l'interne des initiatives notamment de la CENCO et celle de CENCO et SCC, et puis celle de actuellement menée par le conseil spécial chef d'État en matière de sécurité. Les consultations politiques, justement, ce sont des initiatives nées de processus de paix tant voulu par le peuple congolais et je dirais même la communauté internationale. Mais parlons un peu de l'Angola qui a quand même su bien gérer, je dirais, de bonne foi cette médiation, mais qui est aujourd'hui frustré. Et le président angolais, c'est vrai, il est frustré de voir que à chaque fois, c'est toujours un camp qui répond aux invitations, notamment les cas de la RDC, qui envoie ses délégations. Mais de l'autre côté, rien du tout. Vous avez, le jour même de la signature de l'accord, au mois de décembre, mi-décembre, le président Kagame ne s'était pas pointé pour cette signature historique. Et vous avez cette invitation envoyée formellement au M23, l'AFC. Aucun membre ne s'est présenté. Mais quand l'émir a toussé, tout le monde est allé là-bas sans même signaler le médiateur officiel désigné. C'est quand même une frustration de voir qu'aujourd'hui...
Et cela est exprimé à travers les communiqués publiés par les ministères des Affaires étrangères.
Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est le M23 et l'AFC qui répond à l'invitation de l'émir. Alors, à quoi ça sert au président angolais de continuer à assurer cette médiation? Soyons clairs, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à cacher. Sinon, ça sera simplement le côté congolais qui sera reçu de temps à autre, comme le chef de l'État a multiplié aussi des rendez-vous là-bas. Avant le chef de l'État, il y avait la CENCO qui était là-bas. Alors, des messes s'organisent autour du président angolais. Alors, de l'autre côté, on ne veut pas répondre à l'invitation. Alors, comme j'ai suivi hier le président burundais dire que le commandant suprême de forces négatives, en fait, le M23 et l'AFC, c'est Paul Kagame. Si Paul Kagame n'avait pas répondu à l'invitation, alors ne faites pas des imaginations que ses adeptes, ses marionnettes de l'AFC M23 répondra. Donc du coup, il se retrouve avec un camp, et avec un camp, on ne sait pas faire la médiation, on ne sait pas faire la paix, sinon on sera obligé de soutenir un camp. Et n'oubliez pas cet aspect des choses, le président angolais, il est en même temps le président de l'Union africaine. Cet aspect des choses peut aussi quelque part jouer sur sa réputation au niveau régional. Donc du coup, il ne peut pas se laisser faire, il ne peut plus jouer cette médiation. À la limite, de façon polie, il remet les tabliers pour que d'autres dispositions soient prises. Mais j'ai suivi aussi l'EAC et la SADEC, ils ont désigné pas mal un panel de hautes personnalités, des facilitateurs. Justement, si eux ils peuvent continuer, je connais Uhuru Kenyatta qui a commencé le processus, ils peuvent continuer sans problème.
Merci, chers auditrices, chers auditeurs. Comme vous le savez, les femmes clôturent le mois dédié à la promotion de leurs droits ce lundi 31 mars 2025. Et pour rendre hommage à la femme, nous allons écouter Maman, cette chanson à travers laquelle Papa Wemba rend hommage à sa maman. On va écouter donc Maman et on revient juste après.
Mama soki ozala nitaka na bomoi Sele na sezi ozangi sanga susu wana Jamoli mbati ngana lila yo seka Jamoli mbati yo olala ngana la muka Jamoli mbati ata mokia tungi sanga Soki na beli ozala kipota na tomosa Banda yo kena na kuma abandoni Rekompense na yo na kopesa na nyambu Atana leli na nyako jorlo tema Yango na yebeli ya onze boyo mama yondo Elengi ya libele ya mama bota mai Kile kiba esete nyonso ya bako wabe mana ya Ata mafuta tomati ezala kite Kasi yako ele kaki monsu nilele mi Banda yo kenda peti etulama Na koma koli ya kakabona sepeli sa mono koye Mate ya ya mame zanga bile kepe mi normal Kasi ele kibale soba mekwa bako pesor bape sanga Mama soki ozala kitaka na bomoi Mele na sengi bacha yo ministre edikasyon Mele bapa ke bapizo nyonso bakanga Mele jour anniversaire n'a pas été commis. Invité par folie à bas comme la matara, Yopoutou artisan à royaux alité, et pas aux alus sans bien foutre à l'occasion, et de la marque de feu à ta colonne. Et c'est bon, on a émos à la multiplier fois deux. Normalement, c'est à l'élan et c'est à l'IAO. Serment d'Hippocrate, ma médecin, ma consalaka. Viens d'un serment, on a la toujours ma mananga. A ta baba, n'est-ce pas, mon fils, sans qu'il balade. Viens d'un serment, on a la toujours ma mananga.
Je voulais y avoir sa pays, mais c'est à l'auberge à Pierre Chombo. Ma peine est à ton appauvre, ma de la fin d'aïe moi.
Mais elle en a canissé, mais qui maman, au jour anniversaire, n'a pas été commis peine. Invité ba folie à ba colère à ma sanga, yo foutu artisan à quoi yo salite, et pa yo salite, yo foutu à l'ina occasion, et de langa carte de feu à ta colonne, et c'est bon à ma épouse à la multiplier fois deux, normalement spécial et l'eau et salia yo, serment d'Hippocrate, ba médecin, ba fonce à la carte, y'a qu'à serment, yo sala toujours ma mananga. Ata baba neli mo kili sati balaka mae, yanga serma ozala toujours mama nanga. Mama soki ozala tika kana bomoi, mbele na sembi ozangi sanga susuana. Mama soki ozala tika kana bomoi, mbele na sembi ozangi sanga susuana.
Consolation à Maï, Joe Nyondo, photocopie Nayo.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sous la côté de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la problématique et de la mise en application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons également analysé l'apport de l'Angola et du Qatar dans le processus de pacification de l'Est de la RDC. Participe à cette émission Edmond Izouba, il est journaliste et responsable du média en ligne opinion-info.cd. Madame Gertrude Ndaya, elle est membre de la société civile des points focales du cadre des concertations permanentes de la femme congolaise et Kafko-Kassai-Oriental. Elle est coordonnatrice du centre féminin de formation et d'information pour le développement CFID en sigle. Et aussi en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Vengeance. Il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Edmond Izouba, vous avez souhaité nous parler de ce que vous qualifiez des positions ambiguës des rebelles du M23 AFC et de certains opposants congolais au sujet de la crise de l'Est. On vous écoute.
Merci beaucoup Guy Maté, parce que vous savez, l'exposé des motifs de notre constitution interdit certains actes, que vous soyez de la société civile, que vous soyez acteur politique ou que vous soyez tout citoyen lambda. Vous êtes interdit à poser un certain nombre d'actes. Et aujourd'hui, nous voyons que les canaux appropriés pour faire passer ces revendications sont établis par la Constitution. Il s'agit donc des canaux citoyens où chaque Congolais frustré, où chaque Congolais qui a ses revendications peuvent s'exprimer. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est plutôt le Rwanda, d'abord en premier lieu, qui a fait naître le M23, mais aussi rejoint par celui qui a offert au peuple congolais la première alternance démocratique au pays. C'est Corneille Nangaa. C'est lui qui a piloté l'institution citoyenne qui est donc la Commission électorale nationale indépendante et devient lui-même aujourd'hui chef rebelle. Ça veut dire qu'il y a un problème. Deuxième chose, c'est que les acteurs politiques restent ambigus par rapport à cette guerre d'agression connue dans le monde entier, répertoriée dans le rapport des Nations Unies, dont la cible principale est donc la RDC, mais l'agresseur identifié, c'est Paul Kagame et une unité de lutte rwandaise, des soldats rwandais sur le sol congolais identifié. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir certaines positions des opposants, de certains opposants. Pour ce qui est des rebelles, on comprend, leur position, c'est d'éterniser la guerre un moment pour permettre à ce que le Rwanda qui a assez perdu de son économie puisse récupérer en échange des minéraux. Et chaque jour qu'il y a des tensions, ça permet à l'économie rwandaise de récupérer toutes ses ressources et importantes, des ressources minérales importantes dans la partie est de la République et organiser le pillage et ramener tout vers le Rwanda. Et vous avez, au-delà de ça, les cadres de concertation créés où les rebelles n'ont pas de position. Parce que nous savons tous que toutes les revendications du M23 ont été vidées et ça n'existe plus. L'ambiguïté commence avec le Rwanda, qui estime que, comme pays, il peut venir dans notre pays abattre ses rebelles, le FDLR. Il a crié partout que la RDC finançait, préparait les FDLR pour attaquer le Rwanda. Cet argument aujourd'hui est en train d'être battu en brèche parce que après la récupération de la ville de Goma, ils ont récupéré les tenues militaires abandonnées, ils les ont fait habiller à des citoyens et ils les ont présentées comme les FDLR. Ça, aujourd'hui, cet argument ne tient plus debout. Mais pourquoi aujourd'hui, Nangaa, pourquoi aujourd'hui le M23 est ressuscité, s'est rebellé contre les institutions établies? Il n'y a pas des arguments. Quand vous suivez Nangaa, lui, il parle plutôt d'un deal.
Il n'y a pas de raison.
Non, pas du tout. Pas du tout. Non, nous sommes là pour protéger la communauté et tout ça. Quelle communauté Tutsi qui est marginalisée au pays?
Alors, le président de la communauté. Les ambiguïtés par rapport aux opposants, à certains opposants.
Non, mais par rapport aux opposants, c'est un ralliement qui ne dit pas son nom. En fait, en réalité, c'est ce qu'on appelle leader de l'opposition. Vous avez un Kabila qui, de lui-même, s'est choisi de faire l'exil. Kabila n'a jamais été chassé au pays. Kabila lui-même a pris ses distances au pays. Vous avez par la suite...
Est-ce qu'officiellement, il est en exil? Officiellement, mais on nous dit qu'il est parti
Faire ses études. Par faire ses études, bien évidemment. Mais pourquoi il ne rentre pas? Pourquoi il ne rentre pas au pays? Deuxième chose, ce qui arrive à Kabila, c'est que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Il dit à tous ses lieutenants de ne pas participer au processus électoral. Et c'est exécuté. De jeunes qui avaient des ambitions politiques, subitement, ils refusent d'intégrer le processus électoral.
Vous trouvez cette position ambiguë?
Non seulement ambiguë, mais ils avaient une attitude attentiste. C'est comme s'ils attendaient quelque chose qui allait venir. Certains aujourd'hui ont rejoint l'abcès de Corneille Nangaa.
À part l'opposant Kabila?
Non, non, toujours lui, Kabila, parce que après il a commencé à réunir les gens, il a même reçu la CENCO, il a reçu les acteurs politiques, les leaders politiques. Par la suite, il a multiplié les sorties médiatiques et en toile de fond, Joseph Kabila nous fait croire qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait la paix, on doit retourner dans le schéma de Sand City. Vous voyez? Donc, on est là, on veut faire payer à Félix Tshisekedi le refus d'exécuter les deals auxquels le peuple congolais n'a pas participé, mais en tuant le peuple congolais, en tuant ces Congolais.
Ce deal-là, c'est entre qui et qui?
Mais Corneille Nangaa dit qu'il y a un deal
entre, qui
entre Joseph Kabila et Tshisekedi. Et les deals, par la suite, on avait le FCC cash. Alors, le fait pour Félix Tshisekedi d'avoir déchiré, je dirais, cet acte, ce deal, ça devient pour lui, je dirais, un péché impardonnable. Et pour faire payer à Félix Tshisekedi, on préfère tourner par le dos de la cuillère pour tuer le peuple congolais. Et vous avez aujourd'hui...
Vous établissez les liens entre l'attitude de Kabila et la rébellion du M23?
Absolument.
Les
liens, c'est quand le président de la République fait sa première sortie médiatique et estime, selon lui, que le M23 et l'AFC incarnaient les aspirations du peuple congolais.
Ça, c'est Kabila.
Or, c'est une rébellion qui n'est pas acceptée, même à Goma, même à Bukavu, même dans les territoires qu'ils occupent aujourd'hui, parce que la cohabitation n'est pas voulue par ces peuples. Donc, vous avez également Moïse Katumbi, avec les déclarations à la va-vite de Olivier Kamita, tout ça est là. Vous savez, quand un pays est agressé, vous avez un peuple uni qui garde une attitude contre la rébellion. Parce que ici, j'ai évoqué l'exposé des motifs. Tous ces actes ont été interdits formellement par les acteurs politiques et même qui ont apposé leur signature dans cet accord, qui a pondu aujourd'hui notre constitution, mais c'est le même aujourd'hui qui retourne. Donc, si vous regardez les attitudes de Moïse Katumbi, ils ont beaucoup plus tendance à ne pas condamner, en tout cas, à ne pas condamner ce que fait le M23, ce que fait le Rwanda, mais plutôt à charger davantage les régimes. Nous tous, nous savons à quel moment nous pouvons charger Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas pendant cette période des guerres d'agression que nous pouvons avoir des Congolais aussi divisés au point de soutenir le Rwanda. Et moi, j'ai suivi la sortie médiatique de Paul Kagame, parce que lui aussi en a multiplié. Il demande aux Rwandais de serrer leur ceinture, parce que les Rwandais vont vivre les calvaires avec les sanctions. Mais de ne pas oublier qu'à sortie de cette situation, ils auront à bénéficier de leurs acquis. Moi, j'ai analysé et j'ai compris les messages de Paul Kagame.
Les acquis,
c'est les terres qu'ils ont toujours cherchées dans notre pays.
Merci.
Le vouloir de Kagame de vouloir contrôler l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est en train de se matérialiser grâce à des Congolais, parce qu'ils ont voulu punir Tshisekedi d'avoir brisé le pacte, les deals qu'ils ont eus, FCC Cash.
Que personne ne connaît.
Que personne ne connaît, même les citoyens ignorent cet acte.
Merci Madame Gertrude Ndaya. Est-ce que vous êtes d'avis comme l'affirme Edmond Izouba, qui a des ambiguïtés dans la position des rebelles M23 AFC et dans certains opposants congolais?
Effectivement, hein. Parce que quand on demande à ce que ils se retrouvent, par exemple, à Luanda pour qu'ils puissent donner leur cahier de charge, ils refusent d'y participer. Ils doivent quitter le territoire occupé. Ils ne le font pas. Quand ils arrivent dans un territoire, ils disent qu'ils viennent libérer la population parce qu'il y a mauvaise gouvernance, etc. C'est plutôt dans le sens de faire souffrir la population. Par rapport aux opposants politiques, les acteurs politiques, on se pose la question de savoir s'ils sont véritablement congolais s'ils sont véritablement pour le bien des populations congolaises, au fond, quand nous observons leurs attitudes, on se dit qu'ils s'allient plutôt avec l'agresseur qui est le Rwanda. Ils préfèrent que le pays connaissent le chaos. Je ne sais pas ce qu'eux pourront tirer après, hein, quand toute la population sera dans le chaos, quand ce sera, la vie deviendra invivable en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'ils vont en tirer comme bénéfice? J'irai même plus loin, pas seulement en considérant l'attitude des acteurs politiques. Même les ecclésiastiques, les actes qu'ils sont en train de poser, ils n'ont jamais condamné ouvertement le Rwanda. Par contre, ce que nous avons entendu, c'est qu'on a fait l'éloge du leadership de Kagame, alors que pour le monde entier, c'est lui qui est le problème, c'est lui qui tue. C'est lui qui viole. Mais nos pères spirituels se plaisent à ne pas le condamner, à ne pas voir toutes les atrocités que vivent nos concitoyens de l'Est de la République depuis près de 30 ans. Et ils se cachent dans cette démarche qu'ils appellent... De reconstruire la paix en République démocratique du Congo, alors que au fond le problème ne vient pas tellement de l'intérieur. Le problème maintenant, c'est le Rwanda qui nous attaque pour occuper nos terres et piller nos richesses.
Merci. Merci, professeur Pierre Vengeance. L'ambiguïté dont parle notre confrère Edmond Izouba n'est-elle pas le reflet du caractère complexe de la crise qui affecte la partie orientale de la RDC, avec une multitude d'acteurs et d'intérêts visibles et invisibles?
Bien, oui, il y a effectivement une multitude d'acteurs. Et d'abord, aux yeux du Rwanda, il existe toujours des gens qui étaient responsables du génocide de 1994, même si on sait que certains ont déguisé que le Rwanda grossit le problème et qu'en réalité, son envie est une envie de minerai. Hein, ça c'est... Mais il y a ce problème-là qui est réel. Il y a aussi le fait que, puisque l'État congolais est très peu efficace, très peu efficient, et surtout dans l'Est, beaucoup de gens regardent avec méfiance ce qui se passe à Kinshasa, comme dans le reste du pays d'ailleurs, mais c'est vrai que certains Wazalendo, par exemple, qui s'étaient engagés par patriotisme, un peu comme les Mai Mai il y a une trentaine d'années, eh bien, les Wazalendo sont en train de se retourner en partie en disant qu'ils sont très déçus de la manière dont ils sont traités par l'État central congolais. Et donc, effectivement, il ne faut pas oublier non plus que ces faits-là, que de l'inefficacité, de la corruption de l'État congolais, est un élément tout le temps présent pour les simples citoyens de l'Est. Et c'est un fait qui est très démobilisant et qui est en train de détruire la notion du patriotisme de l'intérieur. Alors, le Congo a survécu à la grande crise de 1997, où les grandes puissances s'étaient dit que peut-être il fallait diviser le Congo. Le Congo a survécu à ça, mais ici, je pense que l'attaque est beaucoup plus forte, beaucoup plus insidieuse, et notamment parce qu'il n'y a plus de soutien de l'intérieur, et on a vraiment l'impression, quand on regarde ça de l'est du Congo, qu'il n'y a pas beaucoup de raisons d'avoir plus confiance en Étienne Tshisekedi. On revient à la question que M. Edmond a traitée tout à l'heure. Certaines personnes ont plus confiance en Kagame, qui respecte ses paroles et qui a les moyens d'imposer à sa chaîne de commandement de lui obéir, qu'en Étienne Tshisekedi, qui lui ne parle pas.
Félix Tshisekedi, parce que vous parlez d'Étienne, c'est plutôt Félix.
Bien sûr, oui, non, bien sûr. Excusez-moi, c'est un lapsus.
Voilà. Et du coup, apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec les propos du professeur Pierre Vigence.
Absolument, parce qu'il y a un problème. Surtout quand il parle du patriotisme, en même temps, ce jeu de regard critique à l'égard de la mauvaise gestion ou des actes de mauvaise gestion qui sont réalisés. Il faut dissocier les deux notions. Le patriotisme, c'est l'amour qu'on a envers le pays. Cela ne regarde pas la gestion du pays ou la manière dont elle est gérée. Non, pas du tout. Quand quelqu'un est patriote, il pose des actes de patriotisme. Il n'a pas besoin de jeter des regards critiques aux dirigeants. Parce que le patriotisme, c'est un engagement personnel. C'est la volonté personnelle. Ce n'est pas une volonté collective ici. Et quand vous suivez les discours du professeur, c'est comme si Paul Kagame est plus respectueux que Félix Tshisekedi. Or, c'est faux. C'est l'image qu'on veut donner de Paul Kagame. Ce n'est pas ce que Paul Kagame est. Parce que Paul Kagame, depuis Joseph Kabila, il a signé des accords, il n'a jamais rien respecté. Donc les Congolais doivent bien se renseigner sur leur propre histoire pour savoir comment le défendre.
Merci, merci. On prend une petite pause en écoutant Angelina avec Nana Mouskouri. On se retrouve juste après.
Adieu Angelina, les cloches de la couronne ont été volées à l'aube, je les entends qui sonnent. Je dois les rattraper. Adieu, Angelina, le ciel est en feu et je m'en vais. Ce n'est pas la peine d'en faire une affaire. Ce n'est pas la peine d'ameuter toute la terre. C'est une table vide sur le bord de la mer. Adieu, Angelina, le ciel a tremblé, je dois m'en aller. Les rois et les reines quittent la basse-cour. De sang bohémiennes sont entrées à la cour. Rien ne va plus pour moi. Adieu, Angelina, le ciel s'écroule, je te verrai plus tard. Regarde ces pirates dans la voie lactée qui tirent sur des boîtes avec un canon. Les voisins applaudissent, poussent des cris de joie. Adieu, Angelina, le ciel se décolore, je dois me sauver.
King Kong et les elfes. C'était Angelina, c'est classique de l'artiste musicienne et chanteuse française d'origine grecque, Nana Mouskouri. Une façon pour nous de continuer à rendre hommage aux femmes à l'occasion de la clôture du mois de mars dédié à la promotion de leurs droits. Nana Mouskouri a totalisé ses 90 ans le 13 octobre dernier. Je rappelle que nous avons dans cette émission Edmond Izouba, et des journalistes et responsables du média en ligne opinion-info.cd. Madame Gertrude Ndaya, elle est membre de la société civile Point Focal du cadre de concertation permanent de la femme congolaise CAFCO Kasaï Oriental, et elle est coordonnatrice du centre féminin des formations et d'informations pour le développement CFID en sigle. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Vigence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. En Ituri, une délégation des officiers de l'armée ougandaise conduite par le chef d'état-major de la force terrestre, le général Mwanga Kayanja, est arrivé jeudi à Bunia. Selon des sources militaires, ils ont rencontré le numéro 2 des FRDC en mission en Ituri, le général Jacques Chaligonza Nduru. Les échanges ont tourné autour de l'organisation des opérations conjointes contre les groupes armés réfractaires au processus de paix en province, selon les mêmes sources. Les deux délégations se sont ensuite rendu au camp d'entraînement des FRDC à Rwampara, à quelques kilomètres de la ville de Bunia, où elles ont visité les troupes ougandaises qui y sont stationnées. Madame Gertrude Ndaya, vous avez souhaité nous parler de la présence des militaires ougandais sur les territoires de la RDC. On vous écoute.
Merci beaucoup, Monsieur Guy Maté. Je voudrais d'abord, avant de passer à mon sujet là, de donner juste ma réaction par rapport au propos du professeur. Je suis d'accord avec ce monsieur Izoum, le journaliste.
Edmond Izouba.
Qui a parlé du patriotisme. Hein. Je suis d'accord avec lui parce que le patriotisme, c'est un engagement personnel, individuel pour la défense de la patrie et qui n'a rien à voir avec la façon dont les dirigeants sont en train de gérer les affaires du pays. Et il faut dire que avec cette guerre, nous assistons au ravivement du patriotisme des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, à Goma, à Bukavu, donc les territoires occupés par les rebelles et par le Rwanda, nous avons vu, nous voyons que les Congolais sont en train de braver la peur et d'affronter les agresseurs, les envahisseurs, pour dire non à leur présence. Donc ces gens-là sont prêts à mourir pour défendre leur terre, défendre leur pays. C'est ce que je voulais dire. Alors, par rapport à la présence des militaires ougandais en RDC, pour des soi-disant des opérations conjointes pour lutter contre les rebelles, les ADF, les CODECO qui sont là-bas en Ituri. Moi, je me dis que les Ougandais ne peuvent pas prétendre venir combattre leurs rebelles sur nos terres. Et du côté du gouvernement congolais, je pense que c'est le gouvernement congolais qui doit assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et sécuriser le territoire. Moi, je trouve que la présence des UPDF, c'est vraiment frustrant parce que quand nous suivons les messages de Mourosi qu'il est en train de publier sur X ou sur d'autres voies sur les réseaux sociaux, c'est au fond des messages de mépris. Ils n'ont pas de respect pour les Congolais, à tel point que Mourosi se permet même de menacer d'arrêter le gouverneur de l'Ituri qui est un général. Ça prouve justement que ces gens n'ont pas de considération pour nous les Congolais, et nous les Congolais, nous ne sommes pas d'accord avec ça.
Merci. Professeur Pierre Virgence, on a affaire à deux faits ici. Le premier fait, c'est que sur le terrain, on observe l'arrivée des militaires ougandais qui se déploient dans certaines entités territoriales où ces militaires n'étaient pas attendus. Et l'autre fait, ce sont les communiqués officiels du gouvernement ou de l'armée congolaise pour justifier, n'est-ce pas, les déploiements de ces militaires, mais les communiqués qui arrivent toujours quand les faits se sont produits. Est-ce que ces communiqués officiels ne sont-ils pas justement en train de justifier les faits accomplis?
Mais c'est un peu le problème, je dirais, des rapports de force concrets et réels dans l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, effectivement, on parlait de patriotisme, et pour le patriotisme, comment est-ce qu'il se manifeste? Par une levée en masse de la population, par une population qui prend les armes et qui s'oppose aux armées qui arrivent. Et ici, on a effectivement une armée voisine qui, apparemment, est en train de bafouer les règles d'engagement qu'elle avait prises avec la République démocratique du Congo. Et on a une armée congolaise qui est incapable de juguler l'avancée de cette armée ougandaise, comme d'ailleurs elle est incapable de juguler l'avancée des troupes rwandaises et des supplétifs rwandais que sont le M23. Eh bien, effectivement, on a alors à ce moment-là un État qui ne parvient plus à construire sa propre défense. Et c'est vrai, vous dites, on a vraiment l'impression que l'armée congolaise est en train de laisser faire en fait ce qui se passe, peut-être dans l'espoir qu'il y ait des tensions entre l'Ouganda et le Rwanda, ce qui est imaginable, mais je ne suis pas sûr que ces tensions se résolveront à l'avantage du peuple congolais. J'ai plutôt l'impression que ça se résoudra de façon très violente et sur le dos du peuple congolais. C'est ça le drame.
Merci Edouard Izouba, on va finir cette émission avec vous. Il y a des observateurs qui pensent que le gouvernement congolais semble trop complaisant vis-à-vis de l'armée ougandaise. Est-ce que on ne va pas un jour regretter, n'est-ce pas, le fait d'avoir été complaisant vis-à-vis du gouvernement ougandais?
Oui, on peut pas, c'est qui est sûr, on peut pas éloigner trop l'Ouganda au problème de Congolais, notamment de cette agression, parce que la résurrection du M23 est née de la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Ça, on ne peut pas l'oublier. Mais revenir sur le tweet de le fils de Museveni, moi je pense que peut-être que ce tweet ne reflète pas sa réflexion. Mais il joue à une diversion. Parce que je vous dis, depuis que les opérations conjointes FRDC et l'Ouganda, les UPDF ont commencé, ils n'ont jamais enregistré d'échec. Ça, c'est une note très positive. Et vous avez également, au-delà de ça, aujourd'hui, si les bastions de Codeco sont en train d'être bannis, c'est grâce à l'intervention des UPDF. Ils sont en opération conjointe et échange des services et des renseignements.
Mais ce serait une diversion.
Ce qui est écrit dans le tweet sont des diversions. Moi, j'estime que dans le fond, la vraie bataille, c'est que l'armée ougandaise est avec nous, avec le FRDC. Il ne faut pas suivre ces menaces.
L'enjeu principal, c'est la sécurisation des populations congolaises.
Absolument.
Ou la création des zones d'influence.
Des
nouvelles zones d'influence ougandaises chez nous.
Le problème, est-ce qu'il faut vraiment que le gouvernement congolais prennent au sérieux ce qui est écrit dans le tweet où le gouvernement congolais considère le respect des accords qui sont signés avec
l'armée ougandaise. Mais on se rend compte que c'est sur le terrain, c'est la concrétisation, n'est-ce pas, de la volonté des
Mais expliquez-moi, parce que ils ont récupéré Mangina parmi les prouesses de ces opérations. Mangina qui a été occupé même pendant que Joseph Kabila était au pouvoir, il n'a jamais récupéré Mangina. Mais aussitôt, l'UPDF avec le FRDC mène les opérations, nous avons récupéré Mangina. Il y a des exploits dans les zones opérationnelles, comme le Beni, comme le Butembo, et aujourd'hui, ils sont en opération en Ituri. Ils sont en train de frapper les rebelles. Jusque-là, l'armée ougandaise ne nous
a
pas touchés.
Selon vous, il n'y a pas de dessous des cartes?
Les dessous des cartes, c'est peut-être la diversion qu'ils jouent dans les réseaux sociaux. Mais de l'intérieur, je sais que l'Ouganda n'est pas pardonnable.
C'est un partenaire.
Non, n'est pas pardonnable d'abord dans la crise qui nous frappe maintenant. Mais est-ce qu'il est important de condamner et de frapper l'Ouganda pendant qu'on a des problèmes avec les Rwandais et pendant que les opérations sur terrain nous disent le contraire de ce qui se passe dans les réseaux sociaux à travers son fils? Le fils là de Museveni était descendu jusqu'à Ituri. Il a signé les accords. Il a parlé avec le gouverneur militaire. Et puis après, il est reparti. Citez-moi un seul tweet de ce monsieur qui s'est concrétisé sur terrain.
Est-ce qu'un jour, on ne doit pas regretter d'avoir fait confiance à l'armée?
Je vous dis, s'il fallait regretter, il fallait déjà le faire. Mais nous, moi, journaliste, j'ignore à ces jours les raisons qui ont poussé Yoweri Museveni à faire entrer le 1-23 par les canaux de la frontière RDC-Ouganda. Mais c'est que une partie où moi je me sens un peu satisfait, c'est que les opérations avec les UPDF sur terrain nous donnent des résultats.
Merci.
Voilà.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Professeur Pierre Virgence et Madame Gertrude Ndaya et Dimo Izouba. Merci aussi à Mimi Kindou qui est à la technique avec la participation de Christian Omombe, DJ Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Seboujangwe. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Nalali Pongi, cette composition, c'est classique de Jussar Nyoka Longo, composée en 1974 dans l'orchestre Zaiko Langalanga et on se retrouve le samedi prochain. Thank you.
Oh,